Bonjour tous les Auroviliens. Aujourd'hui, je vais vous lire Aurobindo, Savitri, livre 7, traduction en français de Satprem. Alors aujourd'hui, je veux vous lire dans le livre 7, le chant 7. Alors, au début du chapitre 7, Satprem précise son explication concernant ce texte. Sri Aurobindo n'avait pas donné de titre à ce chant et pour cause. Les éditeurs de Pondichéry ont cru bon de le baptiser la conscience cosmique. Mais ce dernier chant du livre 7 du yoga avait un sens plus profond que ce que l'on entend généralement par la conscience cosmique. Nous aurions plus volontiers appelé ce chant par-delà le nirvana. Et qu'est-ce qui peut aller au-delà du nirvana? Ou qu'est-ce qui peut être après, ou qu'est-ce qui est toujours? Justement, le but ou l'essence du yoga, de tous les yogas, à chacun de le découvrir. Alors c'est à chacun d'entre nous de découvrir, tout simplement selon sa propre expérience. Voilà. Dans le petit ermitage au cœur de la forêt, dans la lumière du soleil et la lumière de la lune et de la nuit, la vie humaine de tous les jours continuait à pas lents, tous comme avant, avec ses petits travaux pareils et la frugale routine de son corps extérieur, et la joie tranquille de sa paix ascétique. La vieille beauté souriait sur sa terre, sur sa scène terrestre. Savitri aussi était son vieux moi gracieux pour les hommes. L'ancienne mère serrait son enfant contre sa poitrine, la pressant tout près dans le cercle de ses bras, comme si la terre, toujours pareille, pouvait toujours la garder. L'esprit et le corps vivant dans son embrasse, comme si la mort n'était point ni la fin ni le changement. Habitué seulement à lire les signes extérieurs, personne ne voyait rien de nouveau en elle. Personne ne devinait son état. Il voyait une personne, tandis que seule était l'immensité de Dieu. Un être de silence ou un puissant néant. Pour tous, elle était la même. Savitri parfaite, une grandeur et une douceur et une lumière couraient en elle sur son petit monde. Sa vie montrait à tous la même façade familière, ses actes suivaient la même ronde inébranlable. Elle prononçait les paroles qu'elle avait l'habitude de dire et faisait les choses qu'elle avait toujours faites. Ses yeux regardaient le visage inchangé de la terre. Autour du mutisme de son âme, tout bougeait comme jadis. Une conscience vacante observée du dedans, vide, de tout sauf de la nue réalité. Il n'y avait nulle volonté derrière les mots et les actes. Nulle pensée ne se formait dans son cerveau pour guider la parole. Un vide impersonnel marchait et parlait en elle. Quelque chose peut-être de non aperçu, non vu, non connu. Garder ce corps pour son travail futur. Ou bien la nature bouger selon son vieux courant de force. Peut-être portait-elle, devenu conscient dans sa poitrine, le miraculeux Nil, origine de nos âmes, source et somme des événements du vaste monde, matrice et tombe de la pensée, énigme de Dieu, un zéro rond de la totalité de l'existence. Cela se servait de ses paroles, agissait dans ses actes. C'était la beauté dans ses membres, la vie dans son souffle. Le mystère originel portait une face humaine. Ainsi, donc, avait-elle perdu au-dedans son moi séparé. Son égo mortel avait péri dans la nuit de Dieu. Seul restait un corps, une coquille d'égo, flottant dans la houle et l'écume de la mer du monde. Une mer de rêves regardée par des sens immobiles, dans une apparence de réalité irréelle. Une prescience impersonnelle pouvait déjà voir dans la connaissance sans pensée de l'esprit. Et même maintenant, cela semblait déjà fait, inévitable. L'individu meurt, le cosmos passe. Ceci parti, le transcendant devenait un mythe, un Saint-Esprit sans père ni fils, ou un substratum de ce qui fut jadis, un être qui n'avait jamais voulu porter un monde, restitué à son originelle solitude, impassible, unique, silencieux, intangible. Pourtant, tout n'était pas anéanti dans cette dévastation profonde. L'être ne voyageait pas vers le néant. Il y avait quelque haut mystère au-delà. Et lorsqu'elle était seule, assise avec sa tyavane, son mental sans mouvement près du sien qui luttait, qui cherchait, elle s'est tournée vers la face d'une vérité voilée et sans voix, cachée dans les tréfonds muets du cœur, ou attendant par-delà l'ultime pic atteint par la pensée, elle-même, invisible. Cette vérité voilée voit le monde en lutte et pousse notre quête sans se soucier d'être trouvé, de cette vastitude lointaine, vint une réponse, quelque chose d'inconnu, inatteint, inscrutable, à envoyer les messages de sa lumière sans corps, lancer les éclairs flamboyant d'une pensée qui n'est pas nôtre, traversant le silence immobile du mental de Savitri. Dans la puissance de sa souveraineté insouciante. Cela se saisissait de la parole pour donner forme à ses flamboiements, faisait battre le cœur de la sagesse dans un mot et disait des choses immortelles par des lèvres mortelles. Ou écoutant les sages de la forêt, d'autres révélations étranges, impossibles pour les hommes, s'échapper de sa vitrine en question et réponse. Quelque chose ou quelqu'un de mystérieux ou de lointain s'emparait de son corps à ses fins mystiques, saisissait sa bouche pour communiquer l'ineffable vérité, une impensable connaissance trouvée à s'exprimer. Stupéfait par cette nouvelle illumination, envahi par un éclair de l'absolu, les sages des bois s'émerveillaient de sa vitrie, car elle semblait savoir ce qu'ils avaient seulement entrevu, parfois et lointainement. Ses pensées ne se formaient pas dans l'écoute du cerveau. Le cœur vacant de Savitri était une harpe sans corde. Impassible, le corps ne sentait pas sa propre voix. Il laissait passer à travers lui la lumineuse grandeur, une puissance double au pôle occulte de l'être, agissait encore, invisible et sans nom. Le vide divin de Savitri était leur instrument. La nature inconsciente usait du monde qu'elle avait fait, et se servant encore des instruments du corps, se glisser à travers le vide conscient que Savitri était devenue. Et le mystère, pardon, et le mystère supraconscient, à travers ce vide, envoyait sa parole pour toucher la pensée des hommes. Jusqu'à présent, ce haut langage impersonnel était rare. Mais maintenant, ce vaste espace spirituel, immobile, où le mental de Savitri survivait tranquille et nu, et laissait passer un voyageur des étendues cosmiques, une pensée pénétrée, drapée d'une voix extérieure. Elle ne parlait pas au silence du cœur récepteur. Elle venait directement au pur siège de perception. Seul centre de conscience, désormais. Si centre se peut, où tout semblait seulement l'espace, n'étant plus enfermé dans les murs et les portes du corps, l'être de Savitri, tel un cercle sans circonférence, excédait désormais toutes les limites cosmiques et de plus en plus s'étendait à l'infinité. Cet être était son propre monde sans bornes, un monde sans une forme, ni trait, ni circonstance. Cela n'avait pas de sol, pas de mur, ni de toit de pensée. Et pourtant, cela se voyait lui-même et tout alentour, dans un silence immuable et illimitable. Il n'y avait nulle personne là, nul mental centré, nul siège de sentiment où puisse frapper les événements, nul objet n'agiter ni ne donner forme à l'attention d'une réaction. Il n'y avait pas de mouvement dans ce monde intérieur. Tout était une égale et silencieuse infinité. En Savitri, l'invincible et l'inconnu attendaient leur heure. Mais à présent, elle était assise près de Satyavan, endormie. Consciente dedans, tandis que l'énorme nuit l'enveloppait dans le vaste de l'inconnaissable. Une voix s'est mise à parler du fond de son propre cœur, qui n'était plus à elle et pourtant gouverner la pensée et les sens. À mesure que la voix parlait, tout a changé en elle et au dehors. Tout était, tout vivait, elle sentait tout comme une seule existence. Le monde d'irréalité cessait d'être. Et comme il n'y avait plus d'univers bâti par le mental, coupable de quelque fabrication ou signe, un esprit, un être voyait les choses créées et se projetait lui-même en d'innombrables formes. Il était ce qu'il voyait créer. Tout venait et devenait l'évidence d'une unique et prodigieuse vérité. Une vérité où la négation n'avait plus de place, un être et une conscience vivante, une absolue et nue réalité. Là, L'irréel ne pouvait pas trouver une place. Le sens de l'irréalité était détruit. Là, tout était conscient, fait de l'infini. Tout avait une substance d'éternité. Pourtant, c'était le même indéchiffrable. Tout semblait jeter de lui l'univers comme un rêve qui s'évanouissait à jamais dans un vide originel. Mais ce n'était plus quelques vagues points ubiquitaires, ni un zéro de vastitude du néant irréel. C'était le même, mais qui maintenant ne semblait plus loin pour l'embrasse vivante de son âme retrouvée. Il y a un nota bene en bas qui est très important. C'est sans doute le mot-clé de ce chant. Pour l'embrasse vivante de son âme retrouvée. C'était son propre moi. C'était le moi de tout. C'était la réalité des choses existantes. C'était la conscience de tout ce qui vivait et sentait et voyait. C'était le sentant et le temps. C'était la félicité du sans-forme et de la forme. C'était le tout amour et les bras de l'unique bien-aimé. C'était ce qui voit et qui pense dans un unique mental tout voyant. C'était la joie d'être sur les pics de Dieu. Sa vitrie passait au-delà du temps dans l'éternité, glissait hors de l'espace et devenait l'infini. Son être montait à des grandeurs inatteignables et ne trouvait pas de fin à son voyage dans le moi. Elle plongeait dans les abysses insondables et ne trouvait pas de fin au silencieux mystère qui contenait tous les mondes dans une unique poitrine solitaire et pourtant abritait les multitudes de toute la création. Elle était toute vastitude et un point unique, sans mesure, elle était une hauteur par-delà les hauteurs, une profondeur par-delà les profondeurs. Elle vivait dans l'immortel et elle était tout ce qui abrite la mort et porte la ronde des heures. Tous les contraires étaient vrais dans un unique esprit grandiose, dépassant les mesures, les changements, les circonstances. Un individu, un, avec le moi cosmique, au cœur du miracle du transcendant et dans le secret de la personnalité universelle qui était le créateur et le Seigneur de tout. Un mental, le mental était un unique regard innombrable sur lui-même et tout ce qu'il devenait. La vie était son drame, la vastitude une scène. L'univers était son corps et Dieu son âme. Tout était une unique réalité, immense, tout été son innombrable phénomène. L'esprit de Savitri voyait le monde comme un dieu vivant. Son esprit voyait un et savait que tout était lui. Elle savait qu'il était l'espace même de l'absolu, un avec son propre moi, sol et base de toute chose. Où le monde erre en quête de la vérité, protégé derrière sa façade d'ignorance, elle le suivait à travers la marche du temps sans fin. Tous les accidents de la nature étaient des événements en elles-mêmes. Tous les accidents de la nature étaient des événements en elles-mêmes. Les pulsations du cosmos étaient ses propres battements. Tous les êtres pensaient, sentaient, bougeaient en elle. Elle habitait la vastitude du monde. Ses distances étaient les frontières de sa nature. Ses proximités étaient les intimités de sa propre vie. Son mental devenait le familier du mental de l'univers. Le corps du monde était l'ossature plus large de son propre corps. Dans lequel elle vivait et se savait elle-même dedans. Une, innombrable dans ses multitudes. Elle était un seul être et pourtant toute chose. Le monde était l'ample circonférence de son esprit. Les pensées des autres étaient ses intimes, leurs sentiments tout contre son cœur universel, leur corps. Les corps nombreux de sa famille. Elle n'était plus elle-même, mais tout le monde. Du fond des infinitudes, tous venaient à elle. Dans les infinitudes sentantes, elles étendaient ses ailes. L'infinité était sa propre maison naturelle. Nulle part elle ne demeurait. Son esprit était partout. Les lointaines constellations tournaient autour d'elle. La terre la vit naître. Tous les mondes étaient ses colonies. Les mondes les plus hauts de la vie et le mental étaient les siens. Toute la nature reproduisait sa nature dans ses lignes. Les mouvements de la nature étaient de vastes copies de la sienne. Elle était l'unique moi de tous ces mois. Elle était en eux. Et tout était en elle. Le premier commencement était une immense identité où sa propre identité s'était perdue. Ce qui lui semblait être elle-même était une image du tout. Elle était la vie subconsciente de l'arbre et de la fleur, l'éclatement de miel des bourgeons du printemps. Elle brûlait dans la passion et la splendeur de la rose. Elle était le cœur rouge de la passiflore, le blanc rêveur du lotus dans son étang. Partie de la vie subconsciente, elle a grimpé au mental. Elle était la pensée et la passion du cœur du monde. Elle était la divinité cachée dans le cœur de l'homme. Elle était la montée de leur âme à Dieu. Le cosmos a fleuri en elle. Elle était son parterre. Elle était le temps et les rêves de Dieu dans le temps. Elle était l'espace et l'étendue de ses jours. De là, elle s'est élevée et le temps et l'espace n'étaient pas. Le supraconscient était son air natal. L'infinité était l'espace naturel de son mouvement. Par ses yeux, l'éternité veillait sur le temps. Fin du chant 7, fin du livre 7. Alors aujourd'hui, après cette lecture de Savitri, je dépose cette lecture très humblement aux pieds de Douce Mère, que Ganga Lakshmi adore depuis le fond des âges et aux pieds de Sri Aurobindo. Une infinie et une immense gratitude à leur amour d'être ici à Auroville. Merci Mère, merci Sri Aurobindo, Ganga Lakshmi.